Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Swear.
Welcome to the podcast. The podcast la soirée avec Monsieur Polydomso. On va pouvoir revenir sur l'UFC
240.
Rust, oui, pardon.
Non, moi, il s'en fiche, moi, de toute façon.
Mais non. Pour l'ultime fois, bien sûr, voir ce qui va se passer pour notre cher Tony Ferguson. Et on va donner l'occasion à notre cher Polydomso, évidemment, de revenir sur ce véritable traumatisme. Mais avant, messieurs, on a reçu une question qui m'a quand même particulièrement fait sourire. Et j'aurais aimé avoir votre
sentiment.
Réaction, réponse à cette question. Donc bien sûr, si vous voulez nous poser des questions, c'est podcast@lasueur.com ou DM sur Instagram. Alors, c'est parti. Gaethje versus Ferguson, soupçon de combat truqué. Monsieur Guillaume et l'équipe Lasueur, je me permets de vous écrire ce billet pour vous faire part de mes doutes après le combat Ferguson-Gaethje. Plane, selon moi, d'évidents soupçons de trucage derrière ce fight. Et je vais tenter d'expliquer pourquoi. Zéro coup de coude de la part de Ferguson en quasiment 24 minutes de combat. Ni aucun takedown, alors que le découpage de gueule ainsi que le JJB sont les armes favorites de l'américano-mexicain depuis plus de 8 ans maintenant. Pire ! Absolument aucune tentative de coup de coude ou de takedown. Ni son coach principal, ni son coin en général ne lui ont par ailleurs intimé l'ordre de faire du sale. Notamment après l'uppercut de la fin de seconde reprise. C'est pourtant aux entraîneurs d'inciter leurs poulains à se défendre avec leurs armes. Étonnamment, les dites armes de prédilection, coude et JJB de Ferguson, celles qui ont fait de lui le véritable croque-mitaine de l'UFC, n'ont jamais été utilisées, pas une seule fois. Aucune tentative de takedown alors que Tiferk se prépare depuis des semaines et des mois maintenant à en découdre avec le meilleur lutteur de la catégorie. Vous ne trouvez pas ça étrange ? Si vous voulez mon avis, c'est Dana White lui-même qui a demandé à Tiferk de lever le pied en échange d'un énorme chèque sans que Gaethje en soit bien sûr tenu informé. La raison est simple. Dana ne souhaite plus organiser le combat maudit entre Khabib et Ferguson. La cinquième annulation l'a convaincu de ne plus jamais le programmer où que ce soit. En effet, si ce combat avait de nouveau été annulé en septembre 2020, Khabib aurait dû se tourner en novembre-décembre vers un Justin Gaethje classé seulement 4e de la catégorie, ce qui n'aurait pas été très vendeur. Il fallait donc que Gaethje remonte au classement, ce qui est dorénavant chose faite. C'est absolument impossible que Ferguson passe 23 minutes et 39 secondes dans un octogone sans foutre un coude. Qui plus est, un striker comme Gaethje, je n'y crois pas une seule seconde, il n'a pas tenté un seul coude et ses coachs ne lui ont pas sommé, ne serait-ce qu'une seule fois, de le tenter. Gaethje était prenable au sol, alors pourquoi ne pas tenter le takedown, puis le JJB ? Ce qui est vraiment douteux, c'est le fait que Tiferk soit abstenu de toute tentative de coude ou de takedown. Si les
ajouteurs... c'est comme la trilogie du Seigneur des Anneaux en version longue, à un moment donné, ça, c'est long quand même.
Il les avait tentés, en vain, la pilule serait mieux passée. Mais là, félicitations en tout cas pour le travail que vous accomplissez au quotidien. Votre média est vraiment sympa à suivre. Bravo. Et n'hésitez pas à pondre un billet là-dessus. Je suis sûr que certains... je suis sûr et certain que les fanatiques de Tiferg adoreront. Moi-même, qui suis absolument fan de Tony Ferguson, n'ai pas d'autre explication.
Rationnel à son JJB.
Sinon, que le combat était truqué. J'ai beau avoir ressassé tout le combat des dizaines de fois dans ma tête, mais rien n'y fait. Ni la violence de frappe, ni le cadeau de Gaethje n'explique cette tragédie. Merci pour tout et à bientôt, Benjamin. Alors, répondons à Benjamin parce que franchement, c'est un message très long et assez divertissant, il faut le dire.
Ah, je crois qu'il a, dans son message, il soulève des choses intéressantes, mais je crois qu'il a oublié de dire que Tony Ferguson n'avait pas utilisé les coups de coude et les takedowns. Non, je plaisante et c'est pas méchant, c'est juste
ben oui.
Un peu... Je vais faire preuve de sympathie envers l'auditeur.
Benjamin.
Parce que je comprends le seum. Je comprends. Ouais. Je comprends en fait et je serais tenté. C'est une tentation, tu vois, quand il y a un monde qui s'effondre, de se dire. Et si tout ça c'était prévu de longue date, tu vois, si tout ça c'était planifié, s'il y avait une raison derrière cette déconfiture. Le truc, c'est que concrètement, il n'y a rien qui vient étayer sa théorie, je ne vais pas dire théorie du complot, mais sa théorie du match acheté. Il n'y a rien. Les coups sont là. Et puis même, j'entends le fait que Tony Ferguson n'ait pas utilisé ses techniques, on va dire, favorites. Mais le truc, c'est que c'est difficile d'avoir la confiance d'utiliser tes techniques favorites quand tu as l'os orbital pété, que tu te prends à chaque fois que tu rentres des contres. Qui te sanctionne, parce qu'en fait c'est la raison pour laquelle je pense que Tony Ferguson n'a pas utilisé les coudes, c'est que les coudes il commence à les utiliser quand il a vraiment son groove, quoi. Quand il commence à mettre les mains en avant, à faire des hand traps sur l'adversaire,
à être à l'aise en distance de course,
c'est,
ça, quoi.
C'est quand il déborde totalement l'adversaire. Le truc, c'est que Gaethje le laissait jamais être en confiance dans l'avancée. À chaque fois il terminait les échanges, à chaque fois il le sanctionnait soit avec son crochet, soit avec l'over right hand. Il n'a jamais été en position de dicter son rythme. Et donc, du coup, il n'a jamais été à l'aise dans sa distance. Et d'ailleurs, on peut le remarquer, la gestion des distances n'était vraiment pas bonne en fait, de Tony Ferguson sur ce combat. Il y a plusieurs moments où notamment, il restait à distance de frappe alors que l'échange était terminé. Enfin, d'habitude, ouais. En fait, une des forces de Tony Ferguson, c'est que quand il engage selon ses termes. Et sinon, il est toujours plus ou moins au bout de ta distance de frappe. Ce qui fait que quand l'adversaire essaie de le toucher, généralement, il se rate. C'est un peu comme Ned Diaz, tu vois, il se ressemble un peu là-dessus et il peut les sanctionner à ce niveau-là. Là, il était, c'était pas son jour, quoi, visiblement, parce qu'il était à distance de punch de Gaethje et à distance de low kick de Gaethje, même quand il n'engageait pas, en fait. Et ça montre qu'il était vraiment pas bien. Et je veux pas croire que c'est volontaire, quoi. Tu peux pas rester comme ça et dire vas-y frappe-moi, vas-y je touche de l'argent, frappe-moi, ou sinon il aurait. En fait, je dois dire une chose à propos de ça, c'est que c'est difficile d'être combattant, c'est encore plus difficile d'être combattant et acteur. Et là, la performance, si c'est un combat truqué, que le mec il a accepté de prendre les coups et qu'il s'effondre, c'est digne des Oscars, parce que là je suis désolé.
Oui, mais surtout tu perds beaucoup plus tôt.
Ben c'est ça, non mais parce que. Pour voir les matchs qui ont été truqués, il y en a eu, dont on sait qui ont été truqués. Je pense notamment au combat de, comment il s'appelait, le catcheur japonais au début du Pride, je crois que c'est Takada, mais ça a vérifié. Mais ça se voit que c'est chorégraphié, quoi. Ça se crame à 1000 km. Là, je suis désolé, les impacts sont là. Tony Ferguson, il avançait, il a quand même mis des coups... Le coup de l'uppercut, tu vois, genre, il aurait pu terminer le match sur ce truc-là, tu vois, si ça avait été truqué, enfin, tu vois, donc pour moi, ça tient pas debout. Mais je comprends la démarche de l'auditeur nourrie par le désespoir.
Et puis pour ce qui est des takedowns aussi, il y a le fait que il se préparait pour un lutteur en tant que Khabib, mais la dynamique est différente puisqu'il savait que Khabib allait le mettre au sol, donc il y a de très grandes chances qu'il se soit entraîné, et d'autant plus avec Eddie Bravo, plutôt à tenter des avancées, des soumissions, des retournements à partir de son dos. Et de toute façon, ce n'est pas vraiment une grande force de Tony Ferguson de mettre au sol. Il fait effectivement de temps en temps, et encore c'est plutôt rare, des Imanari rolls pour...
Dans le scramble qui est bon.
Dans les scrambles. Scramble. Et puis les Imanari rolls, c'est vrai que c'est plutôt pour en gros mindfucker un peu l'adversaire, puisque j'ai pas souvenir d'une qui ait vraiment abouti à quoi que ce soit. C'est pas comme Ryan Hall en fait qui fait ça.
Contre Barboza, non ?
Non, justement, parce que Barboza, il les a fait, mais j'ai pas souvenir.
Deuxième ou troisième, je sais plus.
L'emmène et il en fait quelque chose. En tout cas, ouais, évidemment.
Il en fait quelque chose.
Ouais, non, mais c'est ça, parce que évidemment, le but ultime, c'est quand même de réussir, si jamais il trouve une jambe, à faire une soumission. Mais disons que. C'est pas, je pense, dans la même optique conquérante, et c'est ça que je veux faire absolument, comme un mec comme Ryan Hall. Et du coup, des amenés au sol plus traditionnels, j'ai personnellement pas souvenir d'avoir vu Tony Ferguson en faire beaucoup. Et du coup, c'est vrai que c'est pas forcément étonnant qu'on en ait pas vu, parce qu'on a vu à un moment donné un espèce de semi-Imanari roll, mais il y avait pas la motivation, il y avait pas le physique, donc ça n'a rien donné. Et les Imanari roll, même en tant qu'Imanari roll, il ne les fait pas non plus au début du combat généralement. Ceux contre Barbossa, je crois qu'ils sont venus relativement tard. Et bah là, ouais, il a, je pense qu'il n'avait pas forcément... ouais, il n'était pas serein, de la même manière que pour les coudes, parce qu'il n'était pas serein de rester en distance comme ça, de, d'avancer et puis de pouvoir commencer à mettre les coudes, de jouer avec les mains comme Zepoy Domso. Il n'a jamais été en confiance parce qu'il se prenait des retours, mais des retours de flamme, balrog. Et ben, je pense que c'était un peu pareil pour les Imana Hirol. Et c'est qu'il ben, ne s'est jamais senti suffisamment à l'aise dans sa distance pour les tenter, quoi.
Bon. Et bon, pour terminer sur les coachs, bah là, on touche à un autre problème qui, à mon avis, n'est pas en fait un complot. Je pense que c'est juste que ce n'était pas la bonne équipe pour faire face à Justin Gaethje.
Ben oui.
Avoir Eddie Bravo, c'est génial quand tu vas affronter un grappleur.
Comme Khabib ?
Oui, comme Khabib, et que tu te prépares à une guerre de grappling. Là, il va te donner des super insights. En revanche, le mec, n'est, et je le dis avec tout le respect que j'ai pour Eddie Bravo, n'est absolument pas qualifié pour être dans un corner quand le match, c'est un match de boxe ou un match de kickboxing. Ouais. Et ça montre à quel point, en revanche, il y a truqué et truqué comme match. Là, ça va me permettre de faire une transition. C'est que si tu me dis le match est truqué dans le sens Justin Gaethje, Tony Ferguson, bon, peut-être pas Justin Gaethje, mais Tony Ferguson et Dana White se sont entendus pour jeter le combat un peu à la manière de Jacques Lamotta ou un truc comme ça, enfin, ce qu'on a déjà vu en boxe. Oui, pourquoi, enfin, non, c'est pas possible. Pas, oui, pourquoi pas, non, c'est pas possible. Je pense que c'est, il faut l'exclure. Ça, à moins que tu me prouves, tu me sortes une preuve, franchement, je n'y crois pas, pas en tout cas.
Cependant.
Pas sur ce que j'ai lu. Cependant, il y a les matchs embuscades où là, pour le coup, on va faire en sorte de mettre quelqu'un dans une situation vraiment défavorable où il a vraiment peu de chances de gagner le match. Et moi, je pense que Tony Ferguson, là, bah, tout le monde savait qu'il ne fallait pas qu'il prenne ce putain de match, quoi. Enfin, se dire, c'était évident, on l'a dit sur le podcast La Sueur, la plupart des gens qui analysent le game savaient que c'était un match-up hyper tricky. Surtout quand tu t'es préparé spécifiquement pour un adversaire qui n'a rien à voir avec Justin Gaethje, tu as une équipe que tu as formée autour de toi qui n'a rien à voir, enfin qui n'a pas les compétences en fait pour débloquer le casse-tête que représente Justin Gaethje. Parce que c'est aussi ça, Tony Ferguson. Tony Ferguson, une de ses grandes forces, c'est qu'il s'entoure à chaque fois de partenaires d'entraînement dans un but spécifique, quoi. Et là, il s'est entraîné bah, pour faire en gros un marathon de grappling avec Khabib. Et il se retrouve à faire du kickboxing pendant 5x5 avec Justin Gaethje, ce qui n'a rien à voir. Et donc, du coup, bah, forcément, tu as Eddie Bravo dans ton corner, bah, il te sort des trucs genre « tente-lui une manari roll, jette-lui du sable dans les yeux », enfin des trucs comme ça. Tu vois, et ça bon, c'est vrai que quand tu ne sais pas ça, et que tu te dis « mais c'est qui ce mec, d'où il sort, c'est quoi ce bordel ?» Et qu'en plus, tu as un effet de contraste qui est ultra violent avec
Trevor Whitman.
Trevor Whitman à côté qui te sort des directives… genre les Rangers, quoi, tu vois, genre, ouais. Les bérets verts, tu vois, ben, tu te dis, putain, c'est, oui, ça sent la carabistouille, mais c'est pas une carabistouille, c'est juste que ben, il était mal préparé pour ce combat-là, et c'était un guet-apens. Moi, j'en suis persuadé maintenant, plus je réfléchis au truc, mais peut-être que je suis un peu aussi, que j'ai le seum, et que je me dis, putain, c'est un
guet-apens. Non, mais même au-delà d'avoir le seum, en soi, on en parlait avant, c'est vrai que Khabib Nurmagomedov et Justin Gaethje partagent le même manager qui est Ali Abdelaziz. Et c'est vrai qu'on se met à la place d'Ali Abdelaziz. Si vous savez que Khabib est actuel, et là, ce n'est pas du tout théorie du complot ou quoi que ce soit, exactement pareil quand Conor McGregor et Tony Ferguson étaient représentés par Odi Attar. Si vous savez qu'il y a un des mecs qui est défaillant et que les mecs ont juste une place d'écart, bah vous allez peut-être dire à Justin Gaethje, bon, bah, ce serait peut-être temps de te préparer, il y a moyen qu'il y ait une ouverture. Et là, en soi, Ali Abdelaziz, il fait son job d'agent et de manager. Donc, même si, bon, c'est vrai que pour ce pauvre Tony, bah voilà, ça le passe dans une situation un peu compliquée. Mais en tout cas, pour Justin Gaethje, il est dans les meilleures conditions possibles. Et souvenez-vous d'ailleurs que pour Tony Ferguson, c'était son équipe de management, donc Odi Attar, qui représentait aussi Conor McGregor, qui lui avait conseillé de refuser le combat intérimaire face à Dustin Poirier lors du UFC 236, c'était finalement Max Holloway qui avait pris sa place. Donc là aussi, il y avait eu des choses en coulisses qui s'étaient passées. Bah, pour le coup, on sait que c'est avéré. Pour Tony Ferguson, je pense qu'on apprendra un petit peu plus de choses les prochains mois, à mon avis.
Ouais, et simplement, puisqu'on est sur la ligne rouge du seum, c'est vrai que Eddie Bravo, en revanche, un des trucs qui me fait le plus mal au cœur, c'est qu'on sait à quel point c'est vraiment un coach de génie en termes de grappling adapté au MMA, parce que c'est ça que Eddie Bravo, le rubber guard, il le dit, hein, c'est pour ça qu'il l'a développé, c'est parce que pour lui, il voulait développer la garde sur son dos la plus adaptée à un sport avec frappe, plus grappling. Et dans les podcasts avec Joe Rogan, en gros, quand j'entendais, et que vous l'avez sûrement entendu aussi, Eddie Bravo dire, bah écoutez, là, le gros avantage, c'est qu'on est en train de développer des trucs spécifiquement pour Khabib. Il n'aura jamais vu ça et ça va être vraiment intéressant. Quand j'entends ça et que je sais que ce combat ne se fera plus jamais, bah oui, évidemment, il avait fait tout ça, donc ils sont frères d'armes. Évidemment, après avoir développé tout ça, après avoir fait tout ça, bah oui, il reste dans son corner. Mais voilà, quoi, c'est juste, c'est d'une frustration, mais...
Moi, j'ai peur qu'il y ait une cassure, et quelque part, voilà, vous avez cliqué pour ça, c'est What's Next pour notre cher T-Fagal, Kukui, Tony Ferguson. Mais c'est vrai que, mine de rien, j'ai un peu peur que la relation Eddie Bravo-Tony Ferguson soit un peu écornée par ce combat-là, parce que, mine de rien, on va pas se mentir, enfin, c'est ce que je disais à Rust et avec Polydome aussi, vraiment, les entre-rounds, c'était quand même, la vidéo que BT Sports a publiée, ESPN MMA, elle est quand même assez violente quand on voit le contraste. Fin du troisième round, il y a Eddie Bravo qui fait un beautiful boxing. Non, enfin, tu peux pas. Enfin, ton mec là est en train de se faire exploser. Non, ouais. C'est ça. Fin du troisième, il dit ça. Et c'est avant le deuxième ou avant le quatrième, il fait Might be time to throw an imanari. Mec, non, là, faut quand même.
Ouais, mais je pense pas que Tony va lui reprocher ça. Enfin, là, c'est mon feeling. Pareil, j'ai pas de moyen d'appuyer mon propos, mais je pense que c'est des amis, c'est des frères. Et je pense pas que Tony Ferguson, c'est le genre de mec qui va chercher un coupable, tu vois, qui va dire putain, c'est de ta faute si j'ai foiré le combat. Non, je pense que d'ailleurs, il va pas donner d'excuses, dire non, non. C'est pas le genre, donc je pense qu'il n'en voudra pas à Eddie Bravo. Et par ailleurs, sur une deuxième note, ce que je dirais, c'est que si Ronda Rousey n'a pas viré Taverdian après son combat contre Lyon, ça m'étonnerait que Tony Ferguson vire Eddie Bravo après son combat contre Justin Gaethje, quoi. Parce que là,
et puis d'autant plus que en fait, c'est là où c'est vraiment triste, c'est une tragédie, mais c'est que honnêtement, personnellement, là c'est du domaine du un peu non-verbal, etc. Mais c'était triste parce que j'avais juste l'impression qu'il était complètement dépassé en fait. Mais lui-même, hein, ouais. C'est-à-dire que lui-même le savait, je pense, Eddie Bravo. Et ouais. Quand il parlait, tu sentais qu'il était en mode tente une imanari roll.
Oui, c'était ça, ouais, complètement.
Tu sentais que lui-même savait que, voilà, évidemment, il n'est pas censé être là, il le sait lui-même, mais il fait ce qu'il peut. Ça rend le truc tellement triste, quel que soit l'angle de vue. Quoi.
Non, je dis juste, ça me rend ouf parce que. Il y avait tellement des trucs à dire en fait entre chaque round à conseiller parce que la stratégie finalement de Gaethje, elle a été utilisée du round 1 au round 5. Il n'y a pas eu d'ajustement en fait entre temps parce que c'était la stratégie gagnante, mais il y avait moyen, tu vois, d'exploiter ce qu'il faisait et assez rapidement, je pense, sans vouloir me la péter. Hein, je veux dire, c'est pas moi, Polydomso, qui dit « Ouais, j'avais l'idée pour battre Gaethje, mais je pense que… »
T'as quand même tout à part, Georges Saint-Pierre. Les gens ne le savent pas.
Mais les gens ne le savent pas, Mais tu vois, genre, je pense qu'un mec qui avait un peu de bouteille en striking, il aurait pu lui dire, bah, tu vois, par exemple, un truc tout con, mais Justin Gaethje, une de ses grandes forces, c'est qu'il avait des mouvements de buste très efficaces et qui remisait en crochet dans le mouvement, en fait, dans son… ce qu'on appelle bob and weave. Il le faisait très bien, tu vois, comme ça. Et ce qui fait qu'en fait, Tony Ferguson qui attaquait en ligne, ses coups frappent, touchaient pas. Et comme il restait en fait dans la distance, il prenait les crochets en retour. Mais par exemple, un truc tout con, ça aurait été, tu feintes avec le jab. Il avait un très bon jab, il avait réussi.
Et puis, high kick derrière.
Et high kick derrière, tu vois. C'est un truc, mais de base, tu vois. Et genre, il l'a pas tenté une seule fois pendant les 5 rounds, quoi.
Putain, et c'est vrai que c'est con, parce que d'autant plus que s'il y a bien un qui risque rien à mettre des kicks, c'est Tony. Parce que si ça va au sol,
En plus, il est plus grand. Il est plus grand. Et ça, c'est parce qu'il y a personne qui lui a dit dans son corner, quoi. Et ça, c'est ça rend dingue, quoi.
Mais est-ce que vous pensez qu'une réorganisation est possible pour Tony Ferguson et justement en fonction du match-up, bien entendu, hein, pour son prochain combat, on y viendra dans quelques instants, il puisse justement se dire là, je vais peut-être prendre un head coach.
Personnellement, je pense que ça peut être intéressant, mais je pense que c'est bien s'il y a bien un mec qui n'est pas entre guillemets coachable, c'est Tony, quoi. Je pense.
Et puis bon, de toute façon, ils sont pas nombreux à battre Tony Ferguson. Hein. Moi, je pense que c'est juste là, stylistiquement, c'était le pire match-up pour lui dans la catégorie. Donc, à moins de retomber sur un Justin Gaethje, un mec qui aurait les mêmes qualités que Justin Gaethje, Justin Poirier, j'ai rien. Et à moins de tomber sur lui et donc du coup je pense qu'il gagnera ses combats, hein, les prochains. Je veux dire,
Si tu... Et voilà, et là, mon cher Polydomso, c'est là qu'au sein du trio de l'enfer à la sueur, il y a quelques divergences, parce que je suis de votre avis, je pense que Dustin Poirier, ça peut être très compliqué. Conor McGregor, le matchmaker officiel de l'UFC, a indiqué justement que le prochain combat pour Tony Ferguson, c'était contre Dustin Poirier, qui est lui numéro 2 de la catégorie. Tout porte à croire que l'UFC, parce que Dustin Poirier doit revenir, que le combat contre Dan Hooker est vraisemblablement annulé, vont lui mettre un high profile guy, donc forcément Tony Ferguson, enfin, selon toute vraisemblance Tony Ferguson. Tony Ferguson, on en parlait aussi avec Polydomso en off, c'est vrai que s'il s'impose face à Dustin Poirier de manière convaincante, on ne peut pas lui retirer un title shot face à Habib ou le champion qui sera en place. Donc c'est vrai que ce combat-là, finalement, conviendrait à tout le monde. Rust, lui, se dit que pour Polydomso et moi-même, Dustin Poirier, ce sera encore le traquenard. Enfin, dans le sens, ce sera très compliqué pour Tony Ferguson. Rust est beaucoup plus optimiste.
Ouais. Ben, optimiste. Ouais. Bah ouais. Non, mais optimiste, bon, on verra. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus confiant pour les chances et une victoire potentielle de Tony Ferguson contre Dustin Poirier que contre Dustin Gaethje. Ouais, parce que, alors, eh ben là, ça va être intéressant du coup d'avoir ton point de vue sur la question, Polydomso. Mais pour moi, oui, il a une anglaise qui est perfectionnée, qui est affûtée, etc. Dustin Poirier. Mais pour moi, il n'a pas, un, les low kicks de Dustin Gaethje, ce qui est quand même une grosse arme. Et deuxièmement, même s'il a lui aussi, et même je dirais que la boxe de Dustin Poirier est plus complète que celle de Justin Gaethje, mais pour moi, vraiment, pour arrêter le train Tony Ferguson, il fallait vraiment une rapidité d'exécution et une explosivité extrême que je pense n'a pas à ce point-là Dustin Poirier. Et ça conjugué au fait que personnellement, j'ai trouvé qu'il était quand même très, très, très fatigué physiquement, Tony Ferguson. Je pense qu'un combat contre Dustin Poirier, personnellement, j'aurais confiance.
Bah, moi, personnellement, alors, je te rejoins sur un point, c'est que je pense que le combat contre Dustin Poirier... putain, c'est difficile à dire.
C'est chaud, hein, faut dire Poirier.
Le combat contre Justin Gaethje, tel qu'il s'est fait là, dans ces circonstances, est certainement plus difficile qu'un combat contre Dustin Poirier où il aurait le temps de se préparer pour Dustin Poirier, il aurait le temps de faire son camp dans l'optique d'affronter Dustin Poirier, et je pense que ce serait plus faisable pour lui. Sur les low kicks, je te rejoins aussi à 100%, c'est une des grosses armes qu'avait Gaethje pour justement forcer, contraindre en fait Tony Ferguson à venir vers lui. C'était vraiment le bait, hein, et ça on l'avait dit, hein, dans la preview quand même, hein, je le rappelle, et c'est vrai que c'était la grosse arme, et c'est vrai que Dustin Poirier n'a pas cette arme-là. Après, là où je suis moins d'accord, c'est que je pense pas que c'est nécessairement sur l'explosivité, sur la rapidité que Justin Gaethje a battu Tony Ferguson. Justin Gaethje, il l'a battu parce qu'il a contraint Tony Ferguson à faire un match de boxe anglaise, enfin, l'a contraint à venir en distance anglaise et y rester, grâce au low kick notamment. Et la défense de Tony Ferguson, même s'il a un très bon jab et même si son anglaise offensive, elle n'est pas dégueu, mais la défense en anglaise, quand il attaque, elle n'est pas bonne du tout. Quoi. C'est un gros défaut qu'il a. Et le truc, c'est que Justin Gaethje a exploité ça avec ses mouvements de tête et tout, et ça aurait pu être exploité par Tony Ferguson, ça ne l'a pas été. Mais je trouve que Dustin Poirier, la récente évolution qu'il a eue sur ses derniers combats, il est encore meilleur dans ce domaine-là. Tu sais, de rester dans les échanges.
Il ouais. Cette espèce il de pocket, garde. Puis, ah bah, contre Holloway, il y a une séquence.
Contre Holloway, c'est ça. Il prenait presque pas de coups. Holloway a essayé de le déborder en volume, comme pourrait essayer de le déborder en volume Tony Ferguson. Et à chaque fois, il contrait, il trouvait la marque en contre. Donc, c'est vrai que la dynamique du match pourrait être différente dans le sens où Dustin Poirier n'aurait peut-être pas nécessairement toutes les armes pour forcer en fait Tony Ferguson à venir le combattre selon ses termes. Mais en revanche, si Tony Ferguson se dit je vais essayer de l'avoir à l'usure comme je fais avec 90% de mes adversaires, il s'expose à se prendre des contres. Et on voit bien aussi un des gros problèmes de Tony Ferguson, c'est que il est tellement dans le, c'est quasiment du dolorisme quoi, dans le sadomasochisme, en se disant de toute façon je vais le battre, je vais le prendre de vitesse, à un moment donné il va baisser son rythme, qu'il ne s'ajuste pas en fait. Et si on ne lui dit pas ce qu'il doit faire, je pense qu'il ne s'ajusterait pas. Et c'est pour ça que Dustin Poirier, pour moi, c'est le deuxième match le plus tricky pour lui dans la catégorie. Ouais. En fait, s'il y a trois mecs que je trouve vraiment tricky pour Tony Ferguson dans l'ordre décroissant, c'est Justin Gaethje au top, Dustin Poirier en deuxième et en troisième Conor McGregor parce qu'il a les contre et, et qu'il est violent. Mais l'avantage, c'est que Conor McGregor, il réduit son rythme beaucoup. Tandis que Dustin Poirier, contre Holloway, il descendait. Il descendait.
Pas même contre Gaethje.
Exactement.
Donc, c'est très compliqué. Et en plus, c'est vrai qu'il a battu Justin Gaethje. Donc, tu sais, mentalement, se dire, j'ai battu le mec qui t'a battu, même si, bon, les maths en MMA, on sait ce que ça donne. Mais c'est vrai que tu y vas avec un peu plus de confiance.
Et puis même la guerre contre Eddie Alvarez aussi, qu'il a gagné aussi.
Non, il est chaud. Il est chaud, Dustin.
Il est chaud, cet enfoiré.
C'est vrai, en fait, on a tendance à l'exclure parce qu'on l'a vu combattre Khabib. Et le style de Dustin, c'est efficace contre un mec qui essaie justement d'avoir... à distance, en volume et tout, et que tu peux faire valoir ton punch et ta précision et ta défense, mais c'est presque inutilisable en fait quand le mec en face se dit je vais juste attaquer pour en fait déclencher mes entrées en clinch. Parce que en fait la défense de Dustin Poirier, c'est peut-être aussi une des faiblesses qu'il a par rapport à Justin Gaethje, c'est qu'il est peu mobile en défense. C'est à double tranchant, c'est à la fois une force et une faiblesse parce qu'il reste dans l'échange, parce qu'il a les mouvements de tête et le jeu de rôle qui lui permet de rester dans les échanges. C'est pas mal quand t'as un mec qui t'agresse en volume et qui se défend pas trop bien, comme Holloway ou Tony Ferguson. En revanche, contre un mec qui va juste donner un coup, deux coups, puis rentrer en clinch, ça sert à rien, quoi. Ça sert vraiment à rien. Et c'est ce qui s'est passé avec Khabib, tu vois.
C'est vrai qu'en fait, c'est le seul souci avec Dustin, c'est que, et pourtant, Dieu sait que son style est beau à chialer, mais quand même, le gros problème, c'est un peu le...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un peu le syndrome Cub Swanson, en fait, c'est que comme il a perdu et rapidement contre Conor et qu'il a perdu et de façon impressionnante contre Khabib, en fait, les gens naturellement ont tendance à ne pas trop penser à lui pour le prochain title shot, quoi. Ouais. C'est assez triste, mais
l'avantage qu'il a, mine rien, ce bon vieux DP, n'y voyez aucun sous-entendu, c'est qu'il est toujours revenu, hein, parce qu'il y a aussi cette terrible défaite, mine de rien, contre Michael Johnson, où pour le coup. Là, ne laissait pas du tout présager ce run absolument monstrueux en lightweight.
Mais c'est là où il est hyper impressionnant quand même, Poirier.
Ça coïncide. Il a pris la défaite et juste après, il a changé son, enfin, il a amélioré son style, mais grandement, parce que précédemment à sa remontée en lightweight et même au combat contre Michael Johnson, c'était plus un brawler qu'un tien, quoi. Là, il est devenu beaucoup plus technique sur son anglaise. Et même quand il fait du dirty boxing et tout, c'est beaucoup plus technique.
Honnêtement, pour moi, Dustin Poirier, c'est un peu le Robbie Lawler des lightweight. Honnêtement, même genre de trajectoire de carrière où il a des débuts un peu étranges, des catégories un peu partout. Et au bout d'un moment, pour Robbie Lawler, il trouve son focus, sa caté en welterweight, il éclate tout le monde. Et bah Dustin, il est un peu, j'ai l'impression, sur cette espèce de lancée aussi, un peu à la Robbie Lawler.
Et là, je pense que...
Pardon, vas-y. Non, mais c'est vrai que quand tu réfléchis rétrospectivement, le run Alvarez, Justin Gaethje, Holloway, c'est quand même un run de fou furieux, quoi. Enfin, c'est, voilà.
Putain, mais ouais. Bah, ouais.
Et pour moi, je pense que, mine de rien, cette défaite contre Khabib va beaucoup lui servir parce que, voilà, il a quand même fait chanceler l'ogre du Daghestan. Et il avait beaucoup de regrets sur ce qu'il aurait dû faire après. Et là, je pense que le fait aussi de voir que Justin Gaethje s'est imposé avec Tony Ferguson en appliquant une stratégie et en laissant pas de place, justement, où j'aurais pu faire ça, j'aurais dû essayer, machin, machin. Il y a même Trevor Whitman qui a dit « Bon, bah, calme-toi sur les bombes quand même, parce que faut tenir. » Je pense que s'il y a ce combat contre Tony Ferguson, il se servira des échecs précédents, et notamment celui sur Khabib, pour qu'à la fin, s'il perd, il... Enfin, tu sais, t'es pas de « Ah, j'aurais pu essayer de faire ça, j'aurais machin et tout. » Donc, je pense que là, le Dustin Poirier que l'on va voir prochainement sera le meilleur Dustin Poirier, tout simplement. Contre Tony Ferguson, je trouve que c'est peut-être un peu trop court-termiste pour les deux, parce que celui qui perd, à mon avis, ce sera pas la fin, mais ce sera compliqué de revenir après.
Moi, personnellement, s'il fixe ce match-là, Tony Ferguson, Dustin Poirier, Enfin, je pète un câble. Hein. Genre, en gros, parce
je
que
pète
ça,
un câble.
Ça, parce que ça peut pas échapper. Ça peut pas échapper. Ils ont des matchmakers à hein, l'UFC hein, qui font le travail d'analyse et tout. Et c'est évident que ça, c'est un match-up qui est. Enfin, il a rien à gagner en prenant ce combat-là, Tony Ferguson. Et c'est un match-up qui est vraiment tricky pour
un title lui. Shot.
Ah ouais, quand même, c'est ça.
Il n'aura pas de title shot s'il bat Dustin Poirier. Hein. Ça, je peux vous assurer qu'il n'aura pas. Ah non. Justement, c'est ça le malheur, c'est que Dustin Poirier, on l'a effacé. Dustin Poirier n'a eu le title shot contre Khabib que parce qu'il a battu Holloway en court terme et qu'il a accepté de prendre un match-up difficile et tout. C'est pas parce que c'était Dustin Poirier, oh mon Dieu, il a battu Justin Gaethje, Alvarez, il est en pleine bourre. C'est juste, il s'est trouvé que dans ces circonstances-là, on pouvait faire la nique à Tony Ferguson qui avait refusé de prendre ce combat-là et tout, tu vois. Mais là, je pense que si Dustin, enfin, si on fait ce match-là, j'ai dérapé.
C'est les corons.
Si on fait ce match-là. Et eh ben, à mon sens, c'est que ils veulent enterrer Tony Ferguson. Hein. Franchement, moi, je vous le dis, hein, c'est.
Oh là là, ouais.
Ouais, mais après cela dit, il y a quoi d'autre comme option exactement?
Chips. Compliqué.
Option. Olivera, McGregor, lui, il se voit.
Olivera, j'aimerais bien voir ce match-là.
Mais ça lui donne pas le title shot non plus.
Exactement. Non.
Mais moi, de toute façon, je pense que c'est niqué hein, pour le title shot pour Tony Ferguson. Hein. C'est-à-dire, le seul moyen où il aurait un title shot, c'est si Khabib perd et que c'est pas Conor le champion. Donc, par exemple, si Justin Gaethje arrive à battre Khabib, ce dont je doute hein, personnellement, et que du coup, il y a un micmac, tu vois, et que, enfin, tu vois, circonstances, si tout se passe bien, en gros, si Khabib reste champion et tout, il n'aura jamais de title shot, Tony Ferguson, jamais.
Mais c'est horrible parce que le truc le plus triste.
Ou en short notice.
Ouais, voilà, il accepte dans des conditions horribles, quoi.
Mais le truc, je pense, qui serait presque, honnêtement, le plus triste, je pense, ce serait que Khabib perde et qu'on ait le combat, tu sais, 2 ans après, en 3 rounds, Tony Ferguson versus Khabib sans aucun enjeu. Honnêtement,
sur les prélims.
Oh la vache. Honnêtement, ce serait peut-être une histoire, une des histoires les plus tristes du monde des sports de combat.
Là, je serais quand même content qu'on l'ait quand même, hein, ce foutu match.
Ouais, mais ça servirait plus à grand chose. Ce que ça voudrait dire que Khabib a perdu, donc c'est plus pareil.
Ouais. Non, mais je pense qu'il le mettrait quand même en main event en Russie ou un truc comme ça. Mais. Tout ça pour dire que notre cher Tony Ferguson, ouais, il pourrait pas le mettre contre quelqu'un d'un peu plus abordable que les fameux top contenders, parce que visiblement pour McGregor, ça a l'air d'être exclu pour Conor McGregor. Tony Ferguson avait un peu d'animosité avant le combat, mais
comment s'appelle-t-il le Neo Z
Dan Hooker.
Dan Hooker. Il est en pleine bourre aussi.
Ouais. Là aussi, en fait, je trouve que ce serait... Là, pour le coup, je ne sais pas ce que... En fait, c'est pour ça que c'est très compliqué. J'aimerais pas du tout être à la place de Tony Ferguson. C'est que pour moi, il est tellement... Enfin, sa série 12 victoires consécutives en lightweight, plus longue série de victoires dans la catégorie de l'histoire de l'organisation, car Khabib, c'était 2 combats en catchweight, ne l'oubliez pas. Bah, tu peux pas lui filer un Dan Hooker, un Oliveira ou un Paul Felder. Il est tellement grand... Enfin, grand, voilà, on se comprend. Que... Lui passer des mecs comme ça, c'est presque acquiescer le fait que ça y est, le gars, le déclin est presque là. Et comme le dit Poy Domso, le problème, c'est que s'il bat des Dan Hooker ou des Oliveira ou des Paul Felder, bah, on s'attend à ce qu'il les batte. Et donc, s'il perd, bah, c'est clairement l'accident et tu te dis, bon, bah, ça y est, le mec est terminé. S'il les bat, bah, c'est juste, bon, bah oui, effectivement, il les a battus.
Mais donc, il y a qui alors ?
La revanche que tout le monde attend contre Donald Cowboy Cerrone ? Non, je fais ça. Non, bah pour moi, ouais, c'est... je pense Dustin Poirier. Conor McGregor, ils peuvent pas le faire encore une fois de lui refiler un mec qui est sur une défaite.
Ouais.
Aussi effrayant soit-il, et c'est quand même un point important, McGregor revient cet été. Donc, clairement, faire revenir Ferguson en juillet, avec sa fracture de l'orbite, là, c'est pas possible de toute façon.
Non. Oh putain, bah oui, il y a ça aussi. Mais cela dit, au moins, il y a un lot de consolation pour Tony. C'est qu'au moins, il n'aura pas fait 160 000 plus le bonus de 50 000. Il a été payé.
550 000 dollars plus
30 000 plus 50 000 pour le bonus. Donc, il est à 580 000 pour ce combat. Donc, ça veut dire que quand même, au moins,
départ de pay-per-view, je pense.
Aussi. En espérant. Donc, ça veut dire qu'au moins, dans tout ça, eh ben, visiblement, son contrat a été renégocié. Et ça, ça fait plaisir. Et en espérant que ce ne soit pas un one-off et que dans les prochains combats, son contrat était tellement bien négocié par son manager qu'il continue à être sur du 500 000. Ça me paraît bizarre, mais on ne sait jamais, on peut espérer. D'ailleurs, c'est qui le manager de Tony maintenant ?
C'est le Bélanger Group.
Bélanger, c'est là que j'ai acheté ma PlayStation. Boulanger. Bref, mais du coup, je.
Passons.
Pas la meilleure.
Mais ça non, c'était pas terrible. Mais et comment dire, ils sont chauds en tant qu'ils ont qui ce groupe-là ?
Ils ont aussi, j'ai peur de dire une énorme bêtise, mais je me lance quand même. Je crois qu'ils ont Johanna Jędrzejczyk. Ils ont Johanna Jędrzejczyk et alors attendez. Enfin bref, ils en ont pas mal. Ils ont été
attendez, ces derniers temps.
Et mais ouais, non, mais tout ça pour dire pour Tony Ferguson, c'est vrai que là la suite va être assez compliquée. Non mais cette catégorie là aussi c'est terrible.
Ouais. Ouais, moi personnellement, je comprends. Je comprends
il peut peut-être attendre aussi Ferguson mais pour
c'est
le
ça,
coup.
C'est ça, c'est ça.
Adopter cette stratégie. Hein.
Parce que en fait le truc c'est que évidemment le match qui a le plus de sens pour lui là dans la perspective genre je veux récupérer mon title shot tout de suite maintenant. C'est Dustin Poirier, il y en a pas 30 000, tu vois. Mais le truc, c'est que je pense que ça ne lui donnera rien et c'est pas un match facile pour lui. Maintenant, en fait, j'essaye de réfléchir en me disant, le mec a 36 ans, il vient de prendre une guerre, mais énorme, et il a quoi ? Il a combien de combats encore en lui, honnêtement, à son top niveau ? Il en a peut-être 3, 4, max.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Max. Et encore 3, 4, je vois large. Hein. Et c'est pas. Peut-être il va continuer à en faire d'autres, mais je veux dire, à ce niveau-là, à ce top niveau, il n'en a pas beaucoup encore devant lui. Et du coup, au lieu de prendre tout de suite un match qui est ultra difficile pour lui,
ouais.
En plus, tu n'es même pas garanti, je te dis, d'avoir la carotte au bout, parce que je pense qu'à mon avis, il se fout de sa gueule. Hein. Et ben, il peut attendre. Il peut prendre des matchs où il va regagner la confiance, où il va corriger des gens sans forcément trop prendre de dégâts. Et peut-être, en faisant ça, en gagnant 2-3 matchs, il pourra peut-être avoir un angle pour avoir un bon match à la fin où il pourra faire de la thune pour pouvoir se barrer en paix. Tu vois. Moi, je me dis, tant qu'à faire, autant jouer le casse-couille jusqu'au bout et faire le super gatekeeper, mais le super super où tu tues des prospects. Et moi, franchement, si j'étais Tony Ferguson et dans la team de négociation de Tony Ferguson, il y a un match auquel absolument comme une revanche et comme une dernière crotte donnée à Dana White et aussi à Khabib, parce que Khabib, le match n'est pas fait, c'est contre Islam. Tu attends Islam et tu bats Islam et en plus tu dis j'ai battu Islam, c'est quelqu'un de tête. Oui. C'est quelqu'un qui a le même style que toi, on dit en plus que de ça. Et du coup, Ça, ça relance un intérêt. Même si Islam n'est pas aussi bien coté que de
ses paris actuels. Effectivement.
Et là, ça a un sens. Dans la perspective de Tony Ferguson.
Ah, c'est bien vu. Hein. T'es en train de noter pour envoyer ça à Sean Shelby.
Exactement. Et là, les gars, la post-fight interview légendaire.
Ouais. Oh la vache, j'entends déjà sa voix là.
Ouais. Il soumet Islam sous les yeux de Khabib. Et puis on se dit, allez, viens, machin.
Non, justement, là, les gars, non. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est. Du coup, il fait son combat.
Le scalp avec ses coudes.
Il gagne parce que Islam le met au sol. Et c'est genre un truc flawless, tu vois, un perfect. Rubber guard, hop, feinte de triangle. Et puis finalement, il part en Kimura. Puis finalement, il part en je sais pas trop quoi, Gogo Plata. Hop, il se relève. Et comme si de rien n'était, pas d'énervement, rien. Il dit juste, Habib. We have unfinished business. Et là, il jette son truc, il met ses lunettes de soleil. Non, parce que tu as dit ça juste avant, ça va. Et en gros, il repart. Et là, à mon avis, on a quelque chose.
Et je dis ça, c'est pour qu'on soit bien clair, c'est que c'est quand on se place dans la perspective de Tony.
Oui.
Dans les meilleurs matchs pour lui, que ce soit bien clair, parce que on n'est pas en train de dire ouais, il faut absolument qu'il éclate Islam et tout. Tu vois. C'est juste que moi, quand je fais l'addition des contenders qui arrivent et tout, et les seuls leviers de traction qu'il a, parce que, encore une fois, je pense que s'il bat Dustin Poirier, les gens s'en foutront. Quoi. Les gens n'ont aucun intérêt. En revanche, de battre quelqu'un qui a quasiment le même style que Khabib, qui est très dominant, qui arrive en pleine bourre et qui a à peu près les mêmes armes et tout, là, tu peux te dire, je l'ai battu lui, peut-être que je peux battre l'autre. Tu vois, tu as déjà plus d'ingrédients de négociation pour ensuite avoir un super match. Quoi.
Et c'est pour ça qu'il faudrait vite qu'ils mettent Islam contre quelqu'un et quelqu'un de très haut classé pour que Islam le batte s'il y arrive et que là, effectivement, il y ait vraiment de l'attraction, quoi. Ouais. Si là, Islam, il bat Dan Hooker ou il bat quelqu'un comme ça, là, c'est en mode ouf. Ah ouais, donc ok, on a Khabib numéro 2 qui arrive et donc il faudrait que le croque-mitaine arrive.
Et c'est pour ça qu'il doit attendre Tony Ferguson.
Ouais, absolument.
Pour se reposer, pour mûrir.
Là, ce qui est cool, c'est qu'il est pour le coup mis au repos forcé. Et là, ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir. Pour la gestion de sa carrière, c'est bien.
Bah ouais, après, on connaît aussi Tony. On sait qu'il est revenu, je crois que c'est 4 mois après s'être explosé le genou.
Ouais, c'était avril-octobre. Mais en tout cas, ouais, non, moi, je veux surtout pas voir de combat contre Diego Ferreira ou Oliveira. C'est vraiment, j'ai pas du tout envie de voir ces combats-là, parce que ça serait un peu compliqué.
Oliveira, moi, ça me tente bien, mais juste stylistiquement, j'aime bien, en fait.
Enfin, ouais, stylistiquement, ce serait intéressant.
Oui, mais pour sa carrière, voilà. Mais pour sa carrière, j'ai pas envie qu'il se prenne des dommages pour Peanuts, pour le coup. Parce qu'OK, il sera main event, mais ce sera pas un UFC numéroté. Ça ne lui apportera rien. Et comme l'a dit très justement Pouy Domso, il a plus que 3 ou 4 combats grand max, Tony Ferguson. Hein, et c'est vrai que là, pour le coup, c'est assez marrant parce que nous, on en parlait déjà pour dire. Et notre cher Pouy Domso, justement, avec beaucoup de justesse, comme très souvent, trop souvent peut-être, que Tony Ferguson, même si là, il pouvait devenir champion dans l'immédiat, malgré ses 12 victoires consécutives, ça n'allait pas être un gars qui allait avoir un long règne sur la catégorie.
Non, c'est vrai. Le problème, c'est que c'est déjà, comme je l'avais dit, c'est déjà des champions depuis un moment, en fait. Moi, tel que j'ai vu le combat, c'est comme si Tony Ferguson avait perdu son titre, tu vois, dans la façon dont je vois les choses. Mais c'est pas pour dire c'est le champion par rapport à. Enfin, je sais pas ce qu'il faut. On est tacle derrière, mais. C'est comme Khabib était champion depuis avant son combat contre Yakuinta. Moi, j'ai pas attendu de voir Khabib battre Yakuinta pour savoir que Khabib avait le calibre d'un champion, quoi. C'est pas ce combat qui m'a mis le coup de tambour. C'est là où tu vois que c'est excessivement arbitraire, ces trucs de title shot et tout ça, parce que comme c'est une affaire de match-up et d'opposition de style, bah, y a des moments où le top 15, il peut foutre une branlée au premier au champion. Hein. C'est juste le problème, c'est que le top 15, il n'arrive jamais au champion parce que, à la différence du champion, il n'a pas la constance du champion. Et c'est ça qui fait la différence entre le mec qui, peut-être une nuit, va être excellent et va torcher le cul entre Buster Douglas, tu vois, et Khabib. Tu vois, c'est ça qui fait la différence entre ces deux gens-là, quoi. C'est la constance. Mais le match pour le titre, tu vois, genre Yakuinta ou machin, pris isolément, n'a pas plus de sens qu'un autre match, quoi, en fait. C'est très artificiel, ça.
Je pense que nous sommes complets sur la question. El Coucou, oui, messieurs, peut-être un rapide point, parce que là, on nous a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles de notre cher Conor McGregor, qui là, a unload un petit peu sur ce pauvre Justin Gaethje.
Qui n'a pas répondu, d'ailleurs, je crois encore.
Qui n'a pas répondu, non. Bah, en même temps, il faut qu'il retrouve ses lunettes avant d'écrire sur Twitter. Donc, il a dit quand même, je vais te charcuter tes dents, je vais m'en faire un putain de collier. Tu critiques mes compétences en tant que père ? T'es un homme mort. Traduit par notre cher Rust, s'il vous plaît.
Tu crois que c'est son rôle de père ?
Peut-être, je ne sais pas.
Alors là, Conor McGregor est un petit peu énervé. Il veut revenir en juillet, selon toute vraisemblance. Donc, c'est pour l'International Fight Week, parce que l'UFC ne le fera revenir que pour un UFC numéro 2.
Moi, je pense que Conor, il fait ça pour être sur la même carte que Cyril.
Je pense aussi. Je pense qu'il est très fan. Je pense qu'il est très fan de Cyril. Et d'ailleurs, c'est probable. Hein. On rigole. Mais... Hein, il n'y a pas de raison, d'ailleurs. Quel adversaire ? Parce que là, pour le coup, donc Conor McGregor milite pour un Justin Gaethje. Dana White a fermé la porte à ça. Et pour le coup, là, ça mettrait... Enfin, clairement, pour la crédibilité du titre intérimaire qu'on n'avait déjà pas trop, ce serait quand même un peu compliqué. Donc, quel adversaire pour Conor McGregor ? Il a réactivé un peu le trash talk sur Dustin Poirier. Mais c'est vrai que c'est compliqué, là, pour lui.
Ouais. Et puis, même son Nate Diaz 3, en fait, j'ai pas envie de le voir, perso.
Ça n'a pas de sens. Surtout que tu vas pas lui filer un title shot après avoir battu Nate Diaz.
Bah, ouais. Ouais, puis même les fans, je sais pas parce que probablement les fans casual, ils verraient Nate Diaz, oh, ils recombattent, c'est génial. Mais c'est vrai que perso, ça me fait pas vibrer plus que ça.
Franchement, dans la perspective du title shot lightweight, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Justin Gaethje, Nietzsche. Dustin Poirier, visiblement, il va à fond. Parce que la revanche contre Dustin Poirier serait pas mal aussi. Hein.
Ouais.
Ah, ce serait vraiment bien. Et là, pour le coup, il y a une histoire. Et c'est un mec qui est bien classé. Et là, tu vois, quand tu es Conor McGregor et que tu affrontes Dustin Poirier et tout, ça a un sens parce que tu as déjà une histoire. Et puis, de toute façon, Conor McGregor, il n'a pas besoin de victoires trop éclatantes pour nourrir son argument, en fait. C'est injuste, mais c'est ouais. comme ça. Comme il a ouais. déjà une fanbase qui est énorme derrière lui, même si, bon, on a bien vu, tu vois, il peut battre. Tu vois, quand il a eu son title shot contre Alvarez, il avait battu Ned Diaz. D'ailleurs, il avait battu Ned Diaz. Ouais. À la deuxième reprise en catchweight et ça avait justifié le title shot contre Alvarez, ce qui est quand même incroyable, tu vois.
Non, c'était en welter.
En plus. Ah oui, c'était en plus c'était en welter.
Mais Ned Diaz était énorme, souvenez-vous.
C'était un géant. c'est un géant. Et du coup, alors que quand t'es Tony Ferguson, t'as pas une fanbase aussi massive que Conor McGregor, donc du coup tu dois te sortir un peu plus les doigts. Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est un match qui serait pas mal pour lui. Là, c'est un truc.
Mais je comprends un peu. Alors là, je suis entièrement d'accord avec Poidomso. Pour nous, c'est intéressant. Pour Dustin Poirier, c'est intéressant. Mais pour Conor McGregor, qui est, nous le savons tous, un conquérant, qu'est-ce qu'il a gagné de plus en ayant fini pas en 90 secondes mais là, non, parce que là, il va pas le finir en 90 secondes.
Là, je suis juste en train d'être pragmatique. Je me dis, c'est s'il veut avoir le title shot en lightweight et pas qu'il sorte le title shot du chapeau, tu sais, une fois que Khabib aura battu Gadji, tu vois.
Oui, ouais, mais justement.
Il va patienter, tu vois. Et à ce moment-là, si t'es pas dans la perspective, genre, je veux faire un match pour faire mon title shot, bah, tu fais un super match, soit contre Masvidal, soit contre un mec comme ça pour faire du pognon. Mais ça, c'est autre chose, quoi.
C'est ça ce que j'allais dire.
Oh,
c'est que, bah, en gros, puisqu'ils l'ont déjà fait de sortir du chapeau un title shot contre Eddie Alvarez après un combat contre Nate Diaz, rien ne les empêche de le refaire après un combat contre Masvidal. En prétextant, bah oui, mais Masvidal, c'était le contender numéro 1, welterweight en plus, rendez-vous compte, une catégorie au-dessus. Et donc, ça veut dire qu'il vient grosso modo de récupérer un title shot en welterweight, donc en lightweight, ça marche aussi. Enfin, ils vont nous le vendre, c'est évident qu'ils vont réussir à nous le vendre. Donc, pour moi, c'est Masvidal, hein, je pense.
Masvidal,
je pense. Hein.
Pour le coup, Masvidal, ouais, à part de l'argent, qu'il aurait quand même un petit peu si il affrontait Kamaru Usman.
Ouais.
Attends, les retombées d'un match Masvidal.
Tu vois les retombées.
C'est la vie de rêve, Cogno.
Ouais, non, ouais, non, mais vraiment. Non,
c'est,
mais
vrai, c'est vrai,
ça, c'est vrai. Parce que le truc, c'est que.
Tibet, c'est McGregor. Parce que Cowboy Cerrone, il a pris 200 000 et puis tarif.
Après, je pense que Masvidal négocierait peut-être un petit peu mieux. Et puis en plus de ça, comment dire. Et en plus de ça, comment dire, oui, je sais plus ce que j'allais dire avant, mais en tout cas, n'importe quel combat, un combat contre Conor McGregor vaut n'importe quel title shot, c'est-à-dire pour ta carrière.
Honnêtement, si tu gagnes, ouais, c'est énorme.
Bah, si demande, tu gagnes, Ned Diaz. Bah exactement, Ned Diaz qui était à, je sais plus, c'était 20 000 avant de combattre Conor, c'est devenu une superstar planétaire du jour au lendemain. Et en plus, Masvidal qui en est déjà une là tout de suite. Alors là, mais c'est le mec, il peut marcher sur l'eau après quoi. Enfin.
Non, ouais, c'est clair. Bon, les presse conférences et tout ça, il y a bien moyen de milquer le bordel.
Ouais. Après, cela dit, McGregor a l'air pour l'instant focus sur la catégorie welterweight. Peut-être qu'il pourrait avoir un terrain d'entente avec lightweight, pardon. Peut-être qu'il pourrait avoir un terrain d'entente avec Masvidal qui lui a dit qu'il pourrait redescendre chez lightweight si justement il y avait l'argent. Donc c'est vrai que là, pour le coup, on peut faire difficilement plus attractif que Conor McGregor. Et les gars, pour finir, Mallorca a dit justement. Une fois que j'aurais terminé mon demolition job, donc son travail de démolition chez lightweight, il allait définitivement monter chez les welter. Est-ce que là, vous y croyez? Ou au contraire, vous dites, OK, Conor, c'est bien de vouloir de tenter d'avoir toutes les ceintures, mais il faut quand même se calmer un petit peu parce qu'il y a les lois de la physique qui sont là.
Conor, en welter
À part super match, tu vois, mais bon, comme tu l'as dit, si Masvidal fait l'effort de descendre, il n'y a pas besoin d'eux. Et honnêtement, la perspective d'un combat contre Usman ou Covington.
Mais même Lawler. Hein.
Lawler, à la limite, pourquoi pas? Parce que Lawler, il descend quand même. Hein.
Il descend, mais quand même.
Non, mais ce serait un super match. Ce serait plus compétitif qu'on ne le pense, ça c'est clair. Ouais. Mais à part ça. En plus, putain, la KT Walter, elle commence à. T'as des tueurs, hein. Tu sais, même un truc tout con, mais tu prends un mec comme Vicente Luque ou un truc comme ça. Bon, ce match n'arrivera jamais, hein, je rassure. Vicente Luque, Conor, il sait même pas qu'il existe, ce mec-là, tu vois. Mais tu vois, c'est, c'est compliqué. T'as des mecs qui sont gros, qui sont forts, qui sont puissants.
Ah, Wonderboy. Wonderboy
et tout, c'est pas facile. Donc moi je te dis, il a pas 36 000 matchs à faire en welterweight. Hein.
Ouais. Ouais, parce que s'il monte, va vraiment falloir qu'il les choisisse avec précaution. Donc est-ce que tu peux vraiment dire que tu es dans une catégorie
Darren Till McGregor, Darren Till qui redescend.
T'imagines un Darren Till McGregor.
Moi, ça me fait moins peur que McGregor Usman. Hein. Je suis désolé. Hein. Enfin, est-ce qu'il y a moyen que ce soit du striking, tu vois, que ça dure un petit peu avant le KO, tu vois.
Non, c'est clair.
D'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Tandis que putain de Usman.
Les TKO en Grand Unpound. C'est
tout fait, quoi. Ouais, voilà,
ouais.
Quand même. En tout cas, voilà, McGregor, bravo pour ses ambitions. Hein, parce que...
Non, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Hein, que...
Absolument.
C'est... Il y croit, quoi. Non, mais c'est...
Oui, il y croit complètement.
Bon, hein, quand tu te dis, putain, le mec était featherweight, et il se dit, ouais, je vais peut-être essayer de choper le titre en welter. Bon, même s'il y a une grosse part de com' dedans, hein, mais ça fait plaisir, quoi.
Ça ouais,
fait...
grave. Il vaut mieux ça, quoi.
Complètement. Et puis, quand même, il a battu un énorme Nate Diaz, explosé un Donald Cerrone en welterweight en 40 secondes. Et Dana White ne va plus jamais douter de Conor McGregor en welterweight, c'est moi qui vous le dis.
Ah, bah bon. Non, ça c'est sûr. Surtout si ça fait du 1,5 million de pay-per-view. D'ailleurs, ah, mais on n'a pas les chiffres contre Conor.
Et non, c'est pour ça. On en parlait juste avant le podcast d'ailleurs. Si quelqu'un est un expert sur la question, ce serait un plaisir d'en discuter avec lui. Pour un podcast spécial finance UFC WMIMG, podcast@azur.com. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui lui-même connaît quelqu'un qui pourrait participer au podcast, parce que c'est vrai que l'UFC et tout ce qui se passe justement derrière les combats, c'est assez passionnant, parce que aussi bien pour les salaires des combattants, je crois que c'est Rust, on en avait parlé même avec Polydomso, il y a juste eu 2-3 articles justement qui sont sortis des sommes officiellement perçues par les combattants, et le plus haut salaire, ça avait été Brock Lesnar, je crois, à l'UFC 200, où c'était 8 millions 16, un truc comme ça, quand on prenait en compte tous les bonus.
Ouais, en prenant en compte tous les bonus, il me semble aussi, ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, comment ça se fait qu'on ait eu les salaires là de l'UFC 249 ?
Parce que c'est un jour... Non, parce que... Ah, alors, les salaires de l'UFC 249, c'est la Florida Boxing Commission
qui oblige...
Exactement, qui oblige en fait à recevoir ça, mais ce sont les salaires fixes, donc tous les bonus dont on n'entend pas parler, comme c'était quoi ? C'était Machida qui recevait, je crois, 100 000 $ quand il mettait...
Quand il a explosé Tito Ortiz.
Exactement, ouais. Voilà. Donc, ça fait partie des bonus qu'on ne voit pas, et certainement Gaethje a reçu un bonus de 5 millions pour avoir battu...
le fameux bonus mallette.
Le bonus à la Pride, avec des mallettes remplies de billets de Monopoly. Là. Ouais,
bon... Bref, big shout out to my sweet protein. Moins 38% minimum.
Avec le Polydomso est en train de porter, il me semble.
Oui, ouais,
c'est vrai.
Jim, ça fait plaisir. Qui accompagne toutes ces séances de sport. Et Dieu sait si elles sont intensives. À la prochaine. Soir.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.